Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Caroline, bonjour.
Bonjour Yves.
Et Roselyne.
Bonjour. Bonjour.
Toutes les deux, vous êtes ici pour nous parler de ce qui se fait actuellement et ce qui est en cours avec le mouvement Stop Linky.
Oui, merci Yves de nous avoir invités pour donner des explications aux auditeurs du DIWA pour éclaircir la situation qui n'est pas toujours très compréhensible pour le commun. Des mortels, je ne sais pas, mais des DIWA en tout cas.
Nous le sommes tous. Hein.
Et donc, je pense qu'avant d'aborder directement la question pratique, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse au final, on aurait besoin de préciser dans quel cadre, dans quel contexte le problème du Linky se pose. Parce que c'est ce cadre-là qui fait qu'on est coincé et qui fait qu'on avait besoin de se mobiliser en tant que citoyen, si on veut, ou habitant, ou être humain.
Avant de continuer, on peut peut-être rappeler un peu l'historique de Stop Linky, hein, et puis cette démarche qui est très répandue en France contre cette installation, imposée par les fournisseurs d'électricité.
Oui, les Stop Linky existent déjà depuis plusieurs années dans toute la France. Ils ont beaucoup été actifs. En Bretagne, dans le Nord, dans le Tarn, on voit sur les cartes des Stop Linky sur toute la France qu'il y a des parties de la France où c'est beaucoup plus développé. Et nous, à DIWA, on a commencé seulement l'année dernière. Mais le mouvement, lui, a débuté depuis un bon moment. Et alors, dans le DIWA, on a commencé l'année dernière, j'ai lancé ça en invitant le Robin des Toits. C'est une association que vous pouvez consulter sur Internet, qui est très au courant et qui donne beaucoup d'informations sur ces questions. On a fait une réunion d'information où beaucoup de DIWA sont venus, une trentaine de personnes. Et c'est à partir de cette réunion qu'est né le collectif, donc qui a fait un travail assez large d'information d'une part des populations, mais aussi d'information des élus. Radio DIWA a beaucoup participé d'ailleurs à cette information. Il y a eu des personnes qui ont fait des informations sur les marchés. Et finalement, les élus ont décidé à la mairie de Die de voter contre le renouvellement des compteurs. Barnave l'avait déjà fait. Et progressivement, on a élargi notre action sur tout le DIWA en interpellant les communes. On a informé les petites mairies. Et il y a déjà 8 mairies qui ont voté contre. Et ça, c'est toute la partie locale de où est-ce qu'on en est. C'est Roselyne qui s'en occupe et qui vous donnera les informations après.
Alors Roselyne, avant de continuer, vous pourriez peut-être vous présenter aussi par rapport à ce que vous faites au sein de Stop Linky.
Alors moi, j'ai connu le collectif de DIWA lors d'une réunion. J'ai pris conscience de l'enjeu de ce compteur, en fait, qui n'est pas un compteur, mais un capteur, et de tout l'enjeu qui est du projet de société qui est derrière. Je me suis lancée avec Caroline à la création d'un collectif Grand DIWA, c'est-à-dire pour agir auprès des petites communes, afin de les informer, d'informer les populations et d'agir pour qu'elles puissent se défendre à elles-mêmes, c'est-à-dire prendre des arrêtés ou des délibérations. À ce jour, comme disait Caroline, il y en a quand même plusieurs. Il y a 8 communes qui ont pris des délibérations contre ce Linky. Voilà, donc j'en parlerai un petit peu à la fin de tout ça et de la manière dont ça peut évoluer.
Et nous avons aussi créé un site qui s'appelle Stop Linky DIWA, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui est associé à une liste de diffusion. Donc sur le site, on peut s'inscrire et ensuite vous pouvez recevoir les infos qu'on diffuse, qui sont parfois des infos locales, ça c'est Roselyne qui s'en occupe, et parfois des infos nationales, parce que en parallèle, j'ai aussi créé un site de ralliement de tous les collectifs au niveau national qui s'appelle Stop Linky France, où il y a aussi beaucoup d'informations pour les gens qui s'intéressent à la question et qui par lequel on reçoit toutes les infos nationales, notamment des revues de presse très intéressantes qui sont faites par le collectif de Gironde, collectif 47, qui réunissent toutes les infos qui concernent non seulement Linky mais les questions du big data et de toutes les enjeux politiques qui sont derrière cette histoire de Linky.
Pour vous, qu'est-ce que représente Linky actuellement ?
Alors, Linky, pour nous, c'est un outil qui est présenté d'une certaine façon, c'est-à-dire qui est présenté comme étant une évolution technologique basée sur les ondes de haute fréquence, la technologie sans fil, qui apporterait des améliorations à la distribution du système, à la distribution de l'électricité. Mais en arrière-plan, il y a d'autres éléments qui ne nous sont pas mis en avant par les gens qui veulent vendre ça et qui sont le captage des données personnelles de chaque personne qui fera partie des foyers dans lesquels cette électricité est développée. Donc il y a un problème au niveau du choix que nous avons de pouvoir accepter ou refuser cela, et c'est vraiment là que se pose le problème et que c'est là que est justifiée la présence d'un mouvement Stop Linky.
EDF, j'ai souvenir d'un reportage qui date d'au moins 15 ans et qui indiquait que dans leur propre service de communication, ils utilisaient le CPL sur leur installation pour pouvoir communiquer au sein de l'entreprise. En fait, ça serait une généralisation de cette technologie attribuée aux particuliers également.
Oui, voilà, c'était. Alors, pour vraiment bien comprendre de quoi il s'agit, le plus intéressant peut-être, c'est de prendre l'exemple de la téléphonie, parce que ça, c'est un exemple qui est déjà en place depuis 2000, peut-être même avant, au niveau des personnes, quoi, pas seulement des entreprises, mais de tous les citoyens. Et on voit que sur cette évolution qui a déjà eu lieu au niveau de la technologie, on nous a fait passer d'un système où le service téléphonique était un service qui était simple. Donc il y avait la téléphonie en échange d'un paiement. Voilà, c'était bilatéral avec de l'argent contre un service. Et on est passé à une technologie plus évoluée qui est basée sur les ondes de haute fréquence, sans fil, et en mettant en avant le fait que le service allait être diversifié, qu'en même temps qu'on peut téléphoner, on peut aussi accéder à Internet, aux réseaux sociaux, à tout un tas d'autres services. Et c'est présenté comme une avancée technologique et quelque chose de très intéressant pour les consommateurs. Simplement, en second plan, en arrière-plan, nous avons découvert petit à petit qu'il s'agissait derrière ça de collecter des données personnelles via les ondes et les moyens qu'elles permettent, par exemple au travers des images, des sons, des calculs de vitesse de réaction des gens, connaissance de ce qu'ils consomment, connaissance de la façon dont ils réagissent. Petit à petit, on s'est rendu compte que ce système n'était pas seulement fait pour satisfaire les clients, mais aussi pour compiler des informations personnelles sur les individus de façon tout à fait méthodique et non annoncée. Voilà. En plus, évidemment, il y a aussi le problème qui nous avait pas été donné comme information, c'est que cette technologie est envoyée sur le marché avant qu'il n'ait été vérifié qu'elle ne soit pas toxique. Or, nous découvrons petit à petit que nos téléphones nous empoisonnent. Donc, ce qui s'est passé avec la téléphonie dans une moindre mesure, puisque les téléphones, quand nous le décidons, nous pouvons toujours nous en défaire, ne pas les utiliser, les éteindre, va se passer au niveau de la distribution des énergies dont on a besoin pour vivre, parce que ça ne concerne pas seulement l'énergie électrique, ça concerne tous les compteurs communicants, c'est-à-dire l'eau avec le compteur Aquarius, le gaz avec le compteur Gaspard et l'électricité avec le compteur Linky. Donc ça va se passer à maintenant une très grande échelle et d'une manière où nous n'aurons plus le choix parce que cette récolte des données, on ne pourra plus l'interrompre. L'électricité passera en permanence, la collecte des données est simultanée et constante, il n'y a pas d'interruption. Donc nous n'aurons pas le choix de décider d'arrêter comme nous pouvons le faire avec la Wi-Fi ou avec notre téléphone. Et nous ne pourrons pas choisir qu'est-ce que nous voulons, sur quoi nous voulons bien accepter d'être relevés au niveau de nos données ou sur quoi nous ne le souhaitons pas. Il faut savoir que de la même manière que pour la téléphonie, on nous a annoncé un certain degré de technologie au départ. Donc nous avons acheté nos téléphones, nous nous y sommes habitués en toute confiance. Et progressivement, la technologie, sans que nous puissions rien y faire, a monté. C'est-à-dire que les antennes ont monté. Les fréquences sont passées de plus en plus haut, de 2G, 3G, 4G et bientôt 5G. Et la hauteur de ces fréquences permet ensuite de modifier, de rendre encore plus efficace le captage des données, c'est-à-dire qu'au départ, ce sont des informations d'un certain ordre, par exemple de l'ordre du son, des nombres, des quantités, mais ensuite ça devient aussi les images, les temps de réaction des gens, etc. Donc là, c'est ce qui risque aussi de se passer, c'est évidemment ce qui va se passer, évidemment, puisque une fois que le Linky est installé, pour l'instant c'est juste pour prendre quelques données, mais il y a déjà une petite caméra sur les Linky, et à un moment donné, toutes ces technologies vont augmenter et on ne pourra pas contrôler jusqu'à l'image de ce qu'ils prendront chez nous si le compteur est installé à l'intérieur.
Roselyne, oui. Vous, votre participation au sein de Stop Linky consiste en quoi ?
Eh bien, je diffuse des infos à partir de la messagerie de Stop Linky Grandiwa. J'organise des réunions, je me mets en relation avec des maires et des représentants de communes afin de voir quelle stratégie adopter, comment se positionner et quelle stratégie adopter afin de résister aux pressions qui sont faites par Enedis pour installer ces compteurs. Voilà.
Vous-même avez les mêmes motivations donc que Caroline
tout à, fait.
À l'encontre
tout
de
à
ces
fait.
Compteurs.
J'ajouterai à ce qu'elle dit, c'est que le Linky est installé jusque maintenant, on voit que c'est quand même installé plus ou moins par la force et que le consommateur n'a le choix. On nous dit que le consommateur peut refuser que ces données soient relevées et revendues, mais ça n'est pas tout à fait exact à partir du moment où, même si on coche une case sur Internet, quels moyens avons-nous de vérifier que effectivement nos données ne sont pas prises et récupérées et vendues. En plus, je rajouterai que ce sont des données qui vont concerner notre vie privée. Ce dont parlait Caroline, c'était des données sur téléphonie, sur Internet. Donc c'est un acte volontaire, c'est-à-dire que le consommateur fait la démarche d'utiliser son téléphone, d'utiliser son ordinateur, etc. Là, ce compteur va capter notre mode de vie à l'intérieur dans notre intimité, c'est-à-dire si on prend notre douche, si on consomme le lave-vaisselle, etc. Et ça a une grande importance à partir du moment où il peut détecter que nous serons peut-être absents, que nous aurons du monde chez nous, etc. Donc c'est vraiment une intrusion dans notre vie privée. Et c'est là le danger, à mon avis.
Sur cette installation autour du compteur Linky, une information qui passe par ce boîtier, donc, mais qui utilise un courant qu'on appelle le CPL, qui permet de transporter l'information issue de chaque abonné et de le transmettre ensuite sur les réseaux. Mais ce courant nécessite quand même, d'après ce que j'ai compris, une installation électrique pour supporter ce CPL, c'est-à-dire un courant supplémentaire à celui qui est fourni habituellement. Au vu de certaines installations électriques dans les maisons de dit, certaines habitations, on peut penser que loin de là, justement, ces maisons sont-elles vraiment conformes à cette installation du compteur ?
Effectivement, Les installations sont prévues pour, dans les maisons anciennes et dans toutes les maisons, elles sont prévues pour des courants de 50 Hz. Ce sont la majorité des installations qui sont des câbles non blindés. Et donc, le CPL a une puissance 100 fois, on peut multiplier par 100 et même plus, puisque c'est de 90 kHz et plus. C'est nettement supérieur à ce que nos réseaux électriques intérieurs peuvent supporter. Or, les poseurs qui interviennent ne vérifient pas les installations des gens. Et donc, il y a des risques. Il y a des risques d'incendie, bien sûr. Il y a des risques aussi au niveau rayonnement, etc., puisque ce ne sont pas des câbles blindés.
J'ai entendu dire que ce n'est pas le boîtier du compteur Linky, proprement dit, qui émet des fréquences. Ce sont les capteurs intermédiaires entre le fournisseur et ses boîtiers. Ce seraient des boîtiers installés soit dans un immeuble ou dans une rue qui récupèrent toutes les données de ces compteurs et qui les redispatchent ensuite par fréquence à EDF.
Oui, ça s'appelle des concentrateurs.
Et ces concentrateurs, est-ce que vous établissez quelque chose aussi à l'encontre de ces boîtiers ?
Alors pour se prémunir de l'installation des boîtiers, là c'est des concentrateurs, là ça relève des communes en fait. C'est lorsque les communes refusent le déploiement, l'installation, qu'elles peuvent refuser que les concentrateurs soient installés. Mais les particuliers, là-dessus, tant que si c'est pas dans le cadre du mouvement de faire une pression politique en général, concrètement au niveau du fonctionnement, ça va être aux communes de le mettre en place. Et les concentrateurs, c'est vraiment aussi très toxique, du coup, au niveau des ondes. Et il y en a, ils les posent un peu n'importe où. Donc, dans les échanges nationaux, parce qu'il y a une plateforme d'échange national sur le site Stop Linky France. On a reçu des témoignages de personnes dans des grandes villes qui se retrouvaient avec des concentrateurs dans leur arrière-boutique sans le savoir. Donc qui découvraient comme ça des boîtiers et qui, en faisant des recherches, s'apercevaient que Enedis avait installé des concentrateurs carrément dans l'arrière-boutique de leur commerce.
Vous avez des données un petit peu sur la nocivité de ces appareils ?
Il y a énormément de témoignages, donc sur Stop Linky France, même sur Stop Linky Diwa au niveau des sites, on a commencé à en mettre parce qu'il y a des personnes qui ont compilé ces témoignages de toutes les victimes de Linky. Donc c'est des gens de tous les âges, des personnes qui sont soit déjà sensibles, mais parfois et souvent même des gens qui ne sont pas encore malades, mais qui tombent malades parce que à la suite de l'installation du système Linky, et qui deviennent électrosensibles, qui doivent partir de chez eux. Donc il y a des personnes très jeunes même qui témoignent du fait qu'elles doivent arrêter leurs études parce qu'elles n'arrivent plus à se concentrer, elles n'arrivent plus à suivre leurs études, qu'elles doivent quitter leur maison. Et il y a des gens qui sont en errance, d'ailleurs dans le Diwa aussi, il y a des gens qui sont en errance parce qu'ils vivent dans leur voiture ou bien dans des campings. Et c'est vraiment très grave, ce phénomène était déjà connu. Moi, c'est comme ça que j'ai été alertée au départ et que j'ai lancé toute cette histoire à DI. Était déjà connu aux USA parce qu'ils ont installé une technologie équivalente. C'est pas tout à fait la même, mais elle est équivalente aux USA, au Canada. Et là, il y a eu énormément, comme c'est maintenant le cas en France, d'attaques en justice et de destruction des compteurs. Et les gens témoignaient énormément de problèmes de santé très graves jusqu'à la mort, jusqu'au cancer mortel, jusqu'au cancer fulgurant.
Fight China as they swing, drunk in unison in the world.
Alors, autour de tous ces malaises et, comment dire, désagréments, est-ce que vous avez aussi un soutien du corps médical par rapport à ces méfaits?
Alors, par rapport à cela, le seul professeur vraiment reconnu, le seul docteur qui a lancé, qui a été courageux de faire connaître ses études, et de soigner les gens, parce que c'était surtout ça le problème. Des études qui montrent que les ondes sont toxiques et à quel point elles le sont. Je rappelle qu'il y en a énormément. Elles sont internationales et notamment sur le site de Robin des Toits, il y a une liste longue comme le bras d'études qui datent déjà de plusieurs années jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est du fait que le corps médical s'approprie ces études et fasse des vraies recherches et une vraie intention de soigner les gens, là, c'est complètement différent. La plupart du corps médical, par exemple, sur le DIWA, moi, j'ai compris que j'étais devenue intoxiquée par les ondes et je n'ai pas trouvé de médecin. Le médecin qui me traitait à ce moment-là, c'était une femme d'un certain âge, m'a dit « moi, je ne traite que le médical ». Donc, elle n'a même pas reconnu que le problème des ondes pouvait être un problème médical. Et au niveau national, c'est le professeur Belpomme qui est reconnu et qui a agi pour ça. Et au bout d'un certain nombre d'années, il a même eu des soucis avec l'ordre des médecins. Il a été attaqué parce que l'État et le système en général ne souhaitent pas que les gens soient reconnus avec, par rapport à cette maladie, puisque les gens qui sont concernés augmentent de plus en plus. Donc, par exemple, l'association NextUp, qui a aussi un site et qui est basée à Cray, qui est très active sur cette question, a vraiment été déjà depuis des années envahi d'appels téléphoniques au secours de gens qui tombent électrosensibles comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, et le phénomène s'amplifie avec le déploiement ou la pose des compteurs Linky.
Comment se diagnostique une personne électrosensible?
Le professeur Belpomme a établi tout un protocole pour prouver cela, qui passe par tout un tas d'analyses, dont des encéphalogrammes, parce que au-delà d'un certain point, c'est pour ça qu'il est important d'alerter les habitants, c'est qu'au départ, on a des symptômes qui sont très diffus, qu'on ne sait pas vraiment à quoi associer et que parfois on associe à nos spécificités du moment. Par exemple, on pense qu'on est en train de vieillir ou bien on pense qu'on a tendance à avoir des problèmes de concentration ou qu'on a des choses qui sont liées à notre patrimoine familial, patrimoine de santé familiale. Et en fait, ce sont des symptômes qui touchent à la fois le corps, mais aussi la psychologie et le mental, la capacité à se concentrer, les pertes de mémoire qui sont de plus en plus nombreuses et puis qui sont souvent, c'est de la perte de mémoire immédiate. Donc au début, on perd la mémoire de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait une fois de temps en temps, puis c'est de plus en plus souvent jusqu'à devenir limite Alzheimer. Et donc le professeur Belpomme a bénéficié d'un grand soutien. Il y a maintenant un ensemble de praticiens, surtout basés à Paris, qui le suivent et qui donnent des consultations et qui donnent des certificats qui sont vraiment reconnus simplement. Alors il y a aussi quelques docteurs, mais qui le font dans la France, mais ils sont rares parce qu'ils sont très inquiétés. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à donner un certain nombre de certificats, on leur tape sur les doigts et on leur dit « si vous continuez, ça va pas bien se passer ». Donc il y a des personnes qui finissent par déménager ou qui finissent par renoncer. Et par exemple dans le DIWA, c'est clair que à ma connaissance, il n'y en a pas, et ni non plus je ne connais pas dans la région Rhône-Alpes la seule personne qui avait à déménager dans le sud. Voilà, pour cette reconnaissance, il arrive, mais au bout de longues luttes interminables, que certaines personnes soient reconnues comme handicapées par cela et que donc elles touchent des allocations. Mais c'est vraiment un parcours du combattant. Et il y a vraiment des gens qui sont complètement désocialisés au milieu de tout ça, des personnes qui perdent tout, qui perdent leur lieu de vie, leur travail, qui n'ont pas d'argent et qui se retrouvent dans des situations effroyables, et c'est vraiment en train de se développer.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'il y a eu un jugement, alors je ne m'en rappelle pas parce que je n'ai pas noté ça là, mais il y a eu un jugement qui a interdit d'imposer le compteur Linky à une personne qui était déjà électrosensible. Donc, pour le moment, ça reste vraiment isolé. Ce problème-là n'est pas pris en compte réellement, mais bon, c'est en cours de reconnaissance quand même un petit peu, on va dire.
Alors Yves, je voulais te proposer de donner quelques précisions parce que la question vis-à-vis des auditeurs et en particulier des personnes qui ne sont pas encore vraiment trop informées, qui trouvent tout ça un peu confus, qui se demandent comment c'est possible, pourquoi on laisse le système aller dans ce sens. Et aussi pour même les personnes jeunes et les enfants, parce que c'est celles qui vont être le plus concernées dans leur vie par la suite. Je voudrais juste redonner le cadre dans lequel tout cela est placé et qui explique pourquoi on est coincé au lieu de simplement pouvoir faire valoir nos droits comme on devrait. La question, c'est que le déploiement, le fait d'installer cette technologie de haute fréquence basée sur la récupération des données personnelles, c'est un projet politique qui est développé au niveau international. Et l'Europe, dans ce cadre-là, a donné comme directive aux pays qui la composent d'installer ce nouveau système de distribution, donc pour l'eau, l'électricité et le gaz. Donc on sait que ça a déjà été un peu mis en place, enfin même complètement mis en place pour la téléphonie et l'internet, mais ce qui vient finir complètement cette politique, c'est de l'appliquer à la distribution des sources d'énergie. Donc l'Europe a donné une directive aux pays qui la composent, mais cette directive sous-entend qu'ils ont le choix. C'est pas une obligation, bien entendu, c'est ils ont le choix. Donc il y a des pays qui ont accepté, d'autres qui ont refusé, et certains qui ont accepté de manière simplement partielle. Donc l'Allemagne n'a accepté que pour les entreprises. Et il y a des pays comme le Portugal, la Belgique, la République tchèque, la Lituanie qui ont totalement refusé. La France a accepté. Alors ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, le gouvernement a été volontaire pour installer ce nouveau système. Le gouvernement, toutes tendances confondues, parce que c'est quelque chose qui s'étale sur des années. Et de toute façon, il n'y a pas de prise de position d'un courant ou de l'autre chez les politiciens vis-à-vis de cette question. C'est bien pour ça qu'on est obligé de faire un mouvement de populaire. De ce côté-là, ça a été décidé de cette façon. Simplement, le gouvernement sait très bien que ça va être un problème et qu'il va être mal vu en imposant un tel système de captage des données. Donc, il a profité du fait que l'entreprise ERDF est depuis un certain temps au bord de la faillite et que ERDF n'a pas l'argent pour financer son système d'électricité nucléaire qu'il voudrait développer. Cette ERDF étant en faillite, il était facile pour le gouvernement de déléguer cette question, d'imposer, de pousser pour imposer ce système de compteurs communicants pour l'électricité en négociant et en disant voilà, vous vous débrouillez pour que ça passe et quand vous aurez réussi, vous pourrez bénéficier ainsi de tout l'argent récolté parce que c'est une source de revenus énorme, la collecte des données personnelles à l'heure actuelle. Vous pourrez bénéficier de cet argent pour financer votre projet du nucléaire. Il faut savoir que les données personnelles dans le nouveau monde, la nouvelle modernité qui est en train d'émerger, c'est une valeur comme avant était l'or, le pétrole ou en d'autres temps le chocolat. Mais c'est vraiment la source d'argent la plus féconde et la plus productive qui soit. Pour toutes les personnes qui tiennent les ficelles du système. Donc, de cette façon-là, ERDF s'est retrouvé avec cette mission. Alors, ERDF s'occupe de tout un tas de choses et pour la question du Linky, a donc employé une sous-traitance qui est Enedis. Et au final, Enedis se retrouve avec la mission officiellement du déploiement des compteurs Linky. Et la nuance que nous avons besoin de connaître, c'est que le déploiement des compteurs Linky, ça signifie la mise en avant, la valorisation, le fait de convaincre les gens de le prendre. C'est-à-dire que cette mission, officiellement, dans les textes, dans la loi, le déploiement, c'est l'équivalent pour, par exemple, un petit commerçant de déployer ce qu'il a à vendre dans sa vitrine, de le mettre en valeur et d'attirer son client. Voilà, c'est de ça dont légalement ERDF et avec ERDF Enedis est responsable. Mais il ne s'agit pas d'une directive qui demande la pose des compteurs. La pose, concrètement, qui correspond au fait, comme dans l'exemple précédemment cité, au fait que le client va entrer dans le magasin, c'est lui qui décide si suite au déploiement dans la vitrine, il va ou pas acheter le produit qu'il a vu dans la vitrine. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'État, ERDF, Enedis, tout ça est en charge du déploiement et de la mise en valeur, mais le fait de poser ou pas le compteur dans un logement relève de la décision de la personne et des personnes qui vivent dedans en tant que locataire ou en tant que propriétaire. Ça, c'est la loi. Simplement, comme il y a eu cette espèce de petite supercherie qui a été faite, que je viens de décrire juste avant, de la part du gouvernement pour essayer d'imposer, mais sans vraiment l'imposer, parce qu'ils ne veulent pas assumer les conséquences de leur choix au niveau de leur réputation et de la façon dont ils sont perçus par la population. Donc nous nous retrouvons, nous, en tant que consommateurs, devant des discours qui sont contradictoires. Et c'est ça qui nous embrouille. Une fois, Enedis va nous dire, ou même d'autres entités vont nous dire, nous avons parfaitement le choix de refuser. Et de nombreuses fois, quand cela leur est possible, ils vont nous convaincre que non, nous n'avons pas le droit, qu'il n'y a plus d'autres compteurs possibles à mettre, alors que c'est faux. Il existe toujours des nouveaux compteurs, des compteurs neufs, mais qui sont électroniques comme on a toujours eu. Voilà, donc il y a comme ça un discours qui est tout à fait contradictoire et qui crée une grande confusion de manière à ce que cette politique perverse puisse nous mener tout doucement vers ce vers quoi ils veulent.
Je voulais juste confirmer ce que disait Caroline, c'est-à-dire que le consommateur ou le client, puisque maintenant on est client, a le choix de prendre ou pas le compteur. C'est le procès de Blagnac, cette petite commune qui a refusé, où le jugement a bien précisé que Enedis devait respecter la propriété privée, c'est-à-dire les logements où la propriété privée s'étend également au jardin, etc. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que, de fait, le consommateur a le choix. Si vous n'ouvrez pas votre porte, si vous ne faites pas rentrer les gens dans votre propriété, vous avez le droit de refuser le compteur Linky. Par contre, ceux qui ont leur compteur dans la rue, là, il y a problème. Ils peuvent le poser comme ils veulent, à moins que le consommateur, décidé et complètement engagé, barricade son compteur.
Et voilà. Ça, en toute méconnaissance de la qualité d'installation du particulier au niveau de l'électricité.
Oui.
Et par rapport à ces municipalités qui ont voté contre cette installation, elles se sont retrouvées elles-mêmes attaquées par des tribunaux administratifs. Qu'en est-il la plupart du temps, mis à part le cas de Blagnac que vous venez de citer, mais comment ça se passe en général avec ces communes et le gouvernement ou l'État ?
Oui, c'est pas l'État ni le gouvernement. Elles sont convoquées.
Bah, le tribunal administratif, oui, c'est quand même l'État qui.
D'abord,
qui attaque.
D'abord, le préfet en général essaye de faire casser l'arrêté ou la délibération prise. Ensuite, s'il n'y parvient pas, il assigne cette commune au tribunal administratif. Et le tribunal administratif, généralement en première comparution, casse ou invalide la délibération. Mais il faut savoir qu'il y a des communes qui résistent ou qui prennent de nouveaux arrêtés. Alors, le cas le plus emblématique de la commune qui résiste, c'est Beauvel. C'est un maire qui est allé, qui s'est pourvu en cassation, qui s'est battu, qui a été donc en appel, qui a perdu, mais qui continue son combat en changeant c'est-à-dire en prenant dans son arrêté ou sa délibération d'autres arguments. La plupart des arguments qui ont été pris dans le DIOA se basent sur la déclassification du compteur, parce que le compteur est enlevé, l'ancien compteur est enlevé et ensuite déclassé, normalement détruit. Mais pour cela, il faut une délibération de la commune, du conseil municipal, l'autorisant. Donc, les communes s'appuient sur ce principe et disent non au déclassement des communes. Mais on sait que cet argument n'est pas, pour le moment, au niveau de la justice, n'a pas été retenu dans le cas de Beauvel, justement. Donc, les municipalités reprennent des délibérations sur d'autres arguments et en particulier les problèmes de sécurité que pose ce compteur, puisque de nombreux incendies ont été signalés, les presses locales s'en font l'écho, les plus récentes sont celles du Loiret qui ont eu lieu, Saint-Malo. Donc sur ce point-là, les maires étant responsables de l'ordre public, c'est-à-dire de la paix et la tranquillité des habitants, les incendies posent problème, donc ils peuvent s'appuyer là-dessus pour prendre de nouveaux arrêtés.
Il faut savoir que pour les communes qui souhaitent réfléchir pour entamer cette démarche, entre le moment où le premier arrêté est voté et le moment où il y a une comparution au tribunal administratif, il se passe déjà du temps. Par exemple, pour la commune de Barnave, qui a été la première à faire la démarche dans le DIOA, ils ne sont toujours pas passés au tribunal administratif, donc au bout d'un an et demi. Donc il y a le temps, en même temps, de voir comment évolue l'actualité, comment évolue la défense des autres communes. Et actuellement, le mouvement est en train de s'organiser pour que les communes se défendent en groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de s'élaborer aussi.
Et puis je rappelle un peu quand même que le cahier des charges européen concernant ces boîtiers Linky permettait aux consommateurs de pouvoir gérer sa consommation, ce qui était demandé impérativement à ces boîtiers. Le compteur Linky ne le permet pas justement. Donc est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise par rapport à ce cahier des charges ?
Ah oui, complètement. Non seulement ce qui était prévu c'était ça et ça n'a pas lieu, mais en plus, ce qui était annoncé, c'était une réduction, du coup, par conséquent, des factures. Or, ce qu'on remarque de façon très générale, c'est une explosion des factures. Alors déjà, par le fait que le système de décomptage a été modifié sans que non plus on nous en informe, et ce système plus tout un tas d'autres éléments qui entrent en compte font que la plupart du temps, l'abonnement auquel on est habitué avec le compteur qu'on avait au départ doit augmenter. On est obligé de monter notre abonnement. Donc si on est à 3 kW, on passe à 6, etc. Ce qui augmente le prix de nos factures en général. Mais il y a vraiment un grand nombre de personnes, donc sur les échanges nationaux, ça se voit beaucoup, sans arrêt, qui témoignent de dysfonctionnement. Les gens reçoivent des factures de plusieurs centaines d'euros subitement, sans aucune possibilité pour trouver l'explication à ça. Il y a vraiment des dysfonctionnements énormes sur la facturation qui posent vraiment de problèmes. Et ce que je voudrais dire, c'est que les dysfonctionnements, il y en a à l'appel à tous les niveaux. Et par exemple, ce qu'il faut bien savoir, c'est que tout ce qui concerne les technologies des ondes de haute fréquence n'est pas pris en charge par les assurances, par aucune assurance, c'est-à-dire ni par les nôtres, ni par celles d'Enedis. Donc lorsqu'il y a énormément de choses qui tombent en panne, par exemple des radiateurs, des chaudières électriques, des chaudières qui tombent, des ballons qui tombent en panne en plein milieu de l'hiver, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les personnes, elles se retrouvent avec personne contre qui se retourner et se faire dédommager, parce que personne n'est assuré, Enedis n'est pas assuré. Donc les personnes se retrouvent avec des sommes énormes à devoir sortir pour renouveler une chaudière, somme qu'ils n'ont pas toujours, parce qu'ils doivent la payer totalement de leur poche, parce que tous les dysfonctionnements qui surviennent à partir des ondes, et ils sont extrêmement nombreux, ne sont pas pris en charge par les assurances.
Oui, Roselyne.
Alors, Enedis, dans sa communication, parle d'économie, pour le consommateur, plus d'économie, plus de confort, etc. En fait, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en début d'année, alors je ne sais plus la date exactement, qui démontre bien et qui affirme que le déploiement de ce compteur est avantageux pour Enedis, mais certainement pas pour le consommateur. C'est écrit noir sur blanc, je n'ai pas la phrase exacte.
Est-ce que vous avez le titre de ce rapport, hein?
Si on tape Internet, rapport de la Cour des comptes sur le Linky, je pense qu'on doit trouver ça. Ça a été assez médiatisé, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais Enedis continue quand même de parler de grand intérêt pour le consommateur de ce compteur.
En somme, donc, pour la clairvoyance des consommateurs d'électricité, il existe plutôt une grande confusion autour de ce sujet.
Oui, et je pense que c'est important aussi d'informer les auditeurs des façons de réagir pour ceux qui souhaitent le faire. Le fait que les communes votent des arrêtés ou des délibérations ou même des motions ne protège pas les consommateurs ou les habitants parce que Enedis pose quand même. Donc des tas de communes ont voté des arrêtés et les compteurs ont quand même été posés. C'est par exemple le cas tout simplement à Valence. Même quand Enedis se retrouve en infraction, donc ça c'est la suite logique de ce que j'expliquais tout à l'heure, de cette politique qui descend de l'Europe et qui passe par le gouvernement qui n'est pas au clair là-dessus, fait que Enedis est plus ou moins protégé, n'est pas inquiété par rapport au fait qu'ils produisent ils font des actes qui sont complètement hors la loi. Donc ils font du harcèlement sur les personnes qui refusent, ils forcent les compteurs, donc ils ouvrent les compteurs de force et ils les changent. Ils forcent parfois les propriétés privées quand les compteurs sont dans les jardins, par exemple. Et c'est vraiment important de ne pas se dire « Ah bah, soit j'ai refusé, alors pour refuser, il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour signaler votre refus, seulement une fois qu'on vous a informé qu'on allait poser le compteur. Tant qu'on ne vous a informé de rien, ne faites rien. » Une fois que vous avez reçu ce papier, vous refusez avec un accusé de réception, il y a les modèles qui sont mis sur le site de StopLinky d'Iwa. Il faut bien penser à mettre sur votre accusé de réception, sur la lettre que vous écrivez, le numéro de l'accusé de réception, sinon c'est pas valable légalement. Et ensuite, que la mairie ait voté contre, que vous ayez refusé, quelle que soit la situation, il faut protéger le compteur parce que Enedis ne respecte rien et ils sont apparemment protégés de toutes les choses illégales qu'ils font. Donc, pour protéger les compteurs, c'est bien de les barricader. C'est pour l'instant la chose vraiment la plus efficace à faire, de placarder dessus votre refus avec peut-être des lois, des textes de loi qui expliquent que vous êtes dans votre droit. Et si c'est compliqué dans un premier temps de barricader le compteur, vous pouvez aussi garer, surtout dans les zones rurales c'est parfois possible, garer un gros véhicule qui bloque l'accès au compteur ou inventer toutes sortes de stratégies. Si jamais il se présente chez vous pour changer malgré que vous ayez refusé, pensez à alerter immédiatement vos voisins parce qu'ils sont vraiment très inquiets de la mauvaise publicité qu'on peut leur faire. Pensez à téléphoner aux médias, à les appeler, à téléphoner à des collectifs et à vraiment faire du bruit en appelant par exemple aussi des personnages connus, des personnages publics. Mais le plus important maintenant aussi, à part le fait de s'impliquer parce qu'on aurait besoin aussi que du monde vienne s'impliquer avec nous pour agir. Pour vous, le plus important, c'est vraiment de protéger vos compteurs.
Je voudrais juste dire que les poseurs sont en fait des gens qui sont des boîtes privées, hein, embauchées par Enedis, et donc ils sont payés au nombre de compteurs posés. Ils ont un fixe, puis après, plus ils en posent, plus ils perçoivent. Donc, d'une part, ils n'ont pas le temps de vérifier les installations, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais en plus, ils font du forcing parce que, justement, s'ils arrivent à poser le compteur, ils touchent un peu plus d'argent. Voilà. Je voulais aussi rappeler qu'on a parlé des ondes, mais qu'il y a un autre souci à venir, dans les années à venir, c'est la 5G. le déploiement de la 5G. On connaît pour la téléphonie mobile et tout ça, la 3G, la 4G qui est en train de finir de s'installer. Il y a déjà la 5G en expérience dans 10 villes françaises, qui est encore pire, avec des milliers de mégahertz. On ne parle même plus de kilohertz, on parle de mégahertz. C'est un problème important à venir. Il y avait aussi bien d'autres choses à dire sur les voitures électriques qu'on oui. rechargera et dont on paiera la taxe qui sera élevée.
Voilà, ça c'est un autre sujet, hein. C'est bien de l'aborder, mais je pense que ça mérite une autre émission, ben, hein, voilà. Rien que pour cela. Qu'en est-il justement de ce mouvement StopLink qui, dans le Diwa, vous avez cité Barnave, d'autres villes se sont aussi portées oui. contre ce compteur Linky.
Tout à fait.
Et c'est un mouvement qui s'amplifie encore aujourd'hui.
Oui, récemment, il y a eu Rokubo. Il y a Rokubo qui a pris une délibération. Il y a des réunions publiques qui sont en train de s'organiser sur Châtillon, Diwa. Mais il y a d'autres communes qui ont déjà pris des délibérations, comme Poyol. Il faut insister sur le fait qu'ils s'appuient sur des référendums dans leur population, qui poussent les municipalités à se positionner. Parce que le maire tout seul, parfois, est isolé. Les conseillers municipaux ne sont pas très concernés. Ou inversement, un conseil municipal est motivé, puis les autres le sont moins. En s'appuyant par référendum ou par l'appui de la population, ça permet de faire avancer les choses. Donc, il y a Poyol, il y a Mont-Laure, il y a Barnave, il y a Peine-le-Sec. Châtillon est en cours, mais il y a des réunions pour le moment. Hein, ils ne sont pas encore sur la... Mais il y a d'autres réunions partout. Et partout où nous allons, nous essayons d'informer les populations. Nous avons fait un café débat sur Minglon. Il y avait la présence du maire. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais bon, les maires sont soucieux quand même. Hein. Il y a certains qui essayent de s'informer, qui essayent de réfléchir, etc.
Alors, pour la petite histoire, à Peine-le-Sec, ça a été voté à l'unanimité. Et dans toute la commune, tous les habitants, tous les propriétaires, bon, il n'y en a qu'un, mais et tous les membres du conseil, il n'y a pas une seule personne qui ne soit pas contre.
Est-ce que vous avez le site internet de StopLinky Diwa?
En tapant dans le moteur de recherche juste StopLinky Diwa, ça devrait aller. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce site, pour l'instant, est en place sous ce nom. Mais comme on essaye d'envisager une coordination de tous les StopLinky de la Drôme, il se pourrait que ce site, finalement, devienne StopLinky Drôme, parce qu'on n'a pas besoin de tout un site juste pour le Diwa, et il n'y en a pas vraiment d'autres pour la Drôme. Du coup, peut-être que si un jour vous ne trouvez pas StopLinky Diwa, c'est qu'il faudra chercher StopLinky Drôme, ce sera le même site.
Ensuite, je peux ajouter les adresses de StopLinky Grand Diwa, tout attaché, @melo.com, melo, M-A-I-L-O. C'est un contact, on peut écrire et c'est moi qui gère, donc je pourrai répondre.
Eh bien, Caroline et Roselyne, je vous remercie toutes les deux d'être venues nous parler donc de ces avancées sur cette lutte contre l'installation des compteurs Linky.
Eh bien, merci Yves et merci à tous les auditeurs qui ont eu la patience d'écouter ce sujet un peu difficile jusqu'au bout. Merci beaucoup.
Merci. Essayez de pouvoir peut-être nous rejoindre. Nous avons aussi besoin de la participation de tous les citoyens, du maximum du moins, pour essayer d'avancer du côté de la justice.
Okay, the bird.